Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Herb Dubois et c'est l'heure de l'interview avec Chloé Peterman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous annoncer deux choses importantes. La première, c'est cette acquisition de la maison Lucette. Vous nous expliquerez en quoi consiste-t-elle. Et aussi pour annoncer les murs ne servent à rien, 9e édition.
Oui.
Tout ça se passera à Dieu le Fit.
Tout à fait.
Et ça se passera du 19 au 21 septembre. Alors, on peut peut-être commencer par la Maison Lucette.
Oui, pas de souci. Ouais, oui,
alors, la Maison Lucette, c'était un enjeu primordial pour vous et qui consistait ou qui permet quoi?
Alors, en fait, notre association Passerelle, elle a été créée en 2019 et son but depuis le départ était d'accueillir des personnes exilées à Dieu le Fit, ce que l'on fait déjà, mais le projet phare était effectivement d'ouvrir une maison accueillante dans le village. Et donc, on a travaillé beaucoup et depuis plusieurs années pour essayer de monter un projet pareil, puisque c'est un petit peu audacieux, notamment pour résoudre le problème du lieu, de l'acquisition. Et après avoir monté un projet assez clair du point de vue du projet social, on s'est lancé dans une coopérative immobilière qu'on a lancée en février, coopérative qu'on a appelée la COP Lucette, de façon à ce que tout un chacun puisse, s'il le souhaite, nous soutenir en prenant des parts sociales à la coopérative. Et c'est avec cet argent, avec ces parts sociales-là, que le 15 juillet, on a signé l'achat d'une maison qui est juste à la sortie du village direction Nyons, et maison qu'on a appelée la maison Lucette, puisque tout comme la COP Lucette, puisque la dernière personne qui habitait dans cette maison s'appelait Lucette, c'est le vendeur qui est son neveu qui nous a parlé d'elle. Et donc, on a eu envie de lui faire un petit hommage en plaçant son nom sur le nom de la maison. Mais du coup, ce lieu, il va s'ouvrir et accueillir le projet social qui est la maison accueillante de Dieu le Fit, dans l'idée d'accueillir à terme entre 10 et 15 personnes exilées à Dieu le Fit.
Cette maison répondait justement à vos attentes dans les moyens et dans les possibilités.
Ben en fait, cette maison, quand on l'a... Nous, on était quand même pas mal en veille sur l'immobilier à Dieu le Fit. Mais bon, comme vous le savez, un peu comme chez vous, je crois, les prix ne font que monter. Donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai que cette maison, quand on l'a visitée, on a de suite perçu son potentiel. Il y a des travaux, mais au niveau de l'échelle, vraiment, elle correspond à ce qu'on veut faire. On va inverser le toit. Le toit est en V, il y a une forme un peu particulière à cette maison. On va relever le pignon et de cette façon gagner encore plus de mètres carrés qu'elle ne fait à ce jour. Donc l'idée, c'est de fonctionner par tranches. Il va y avoir une première tranche de travaux sur la partie qui était la partie où habitait cette dame. Donc ça sera à rafraîchir. Et après, il y a la partie plus gros œuvre qui va permettre de gagner des mètres carrés.
Comme vous le dites, le chemin a été long, il y a les embûches financières, immobilières.
Oui.
Et de quel œil aussi est accueillie cette idée dans Dieu le Fit?
Alors nous, on a quand même la chance d'une part d'être dans un territoire un petit peu particulier avec l'histoire d'accueil de Dieu le Fit. Donc nous, évidemment, qu'on s'appuie sur ça, sur cet héritage. Mais il y a aussi le fait qu'avec Passerelle, on a depuis des années fait ce travail d'ancrage territorial qui était très important pour nous. Donc on a fait beaucoup de réunions publiques, on a beaucoup parlé de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on va faire. On a un local depuis plus d'une année maintenant, on a un local dans Dieu le Fit où on reçoit les gens qui souhaitent nous poser des questions. Donc voilà, il y a eu tout un boulot d'interconnaissance et de développement du projet social pour que les gens puissent se l'approprier. Et on a énormément de gens qui, avant de prendre des parts sociales, avaient déjà signé des lettres de soutien disant « oui, je suis pour l'ouverture de cette maison ». Donc voilà, on s'appuie sur toute cette dynamique collective. Et c'est ça qui fait aussi que, à partir du moment où on a lancé la coopérative, plein de gens ont pris des parts. Une part à 100 euros ou plusieurs, voilà, c'est vraiment pour tous les budgets. Mais c'est s'inclure dans une grande aventure collective.
Ce lieu donc permettra l'accueil de personnes de tous horizons.
Oui, tout à fait. Ce sera un lieu en accueil, ce qu'on appelle en accueil inconditionnel. Ça veut dire que toute personne en exil venue de pays hors Europe, pourrait potentiellement habiter à la maison Lucette s'il en a le besoin. Les gens seront choisis en fonction évidemment de leur situation et de leur vulnérabilité, et aussi en fonction de leurs souhaits, puisque bien sûr il y aura une période d'essai. Il faut que les gens ils soient aussi ok de venir habiter en milieu rural et dans cette maison et avec les règles qui seront posées dans cette maison. Donc, mais peut-être des gens de tout horizon géographique. Oui.
En quoi consistera cette habitation, l'hébergement? Mais est-ce qu'il y aura aussi, ça sera un lieu en quelque sorte de synergie peut-être?
Oui, tout à fait. En fait, la maison accueillante, dès le départ du projet, on l'a vraiment pensé au-delà d'un lieu d'hébergement, au-delà d'une maison, on l'a pensé comme un lieu de vie. Donc l'idée, c'est qu'il y ait... plusieurs îlots justement de vie, on va penser ça plutôt en îlots, soit colocation, soit accueil de famille, mais pas une grande coloc de 15 personnes, mais plutôt 3 ou 4 îlots de vie pour que la colocation ou la cohabitation soit aussi un peu plus facile. Mais au-delà de cette partie hébergement, il y aura bien sûr les bureaux de l'association Passerelle, il y aura des ateliers qu'on va louer à des personnes du territoire. Il y a un très gros besoin à Dieulefi, il y a beaucoup de gens qui souhaitent, notamment quand ils viennent faire la maison de la céramique, qui souhaitent rester après s'être formés, ils ont du mal à trouver des locaux. Donc on trouvait intéressant d'articuler cette partie accueil avec des parties aussi de locaux qui sont loués pour des artistes et des artisans qui seront bien sûr choisis comme étant motivés aussi à participer à la vie de la maison, et avec aussi l'idée d'utiliser le terrain puisqu'il y a 4000 m2. Alors ils sont assez en pente à l'arrière de la maison, mais il va falloir penser ça en terrasse et potentiellement des projets de maraîchage, et puis une salle qu'on pense comme un espace socio-culturel. Alors ça veut un peu tout dire et rien dire, mais dans l'idée qu'on puisse organiser des concerts, faire venir des spectacles, organiser des choses venant aussi des personnes accueillies, pour que la rencontre avec les Dieulefitois puisse se faire sur le lieu.
Ça peut être un agora aussi.
Tout à fait.
Et il y a ce soutien d'une partie de la population, mm-hmm. De Dieulefi. Quelles sont aussi les possibilités? Est-ce que le public, les Dieulefitoises et Dieulefitois pourront contribuer à aider aussi?
Bien sûr, oui, tout à fait. Au-delà de devenir sociétaire, c'est-à-dire prendre une part sociale, avoir une souscription à la COP Lucette, ce qui est un gros soutien pour nous, évidemment, il y a toutes sortes d'autres façons de s'investir, notamment quand on va commencer les travaux et le rafraîchissement de cette partie habitable qui existe déjà. On va monter des équipes de bénévoles qui vont arracher du lino, poncer des parquets, peindre des murs, refaire des portes. Donc ça va faire partie de notre taf de coordonner tous ces potentiels futurs bénévoles. Et puis après, une fois que la maison aura ouvert, y aura plein de choses à organiser. Par exemple, des récoltes de nourriture, des dons pour essayer de faire baisser les coûts de ce point de vue, faire des choses avec les personnes, les cours de français langue étrangère, proposer des activités, faire du sport avec les personnes, voilà. Et ça sera le rôle de moi en tant que coordinatrice, ainsi que la personne qu'on va recruter du point de vue du travail social, de coordonner tout ça.
Il y a donc la maison de Lucette,
oui.
Ça c'est une chose, je crois.
Un très gros projet, oui.
D'ailleurs, pour suivre un peu son évolution, il y a une page internet.
Oui, complètement. Alors on peut aller sur cop-lucette.fr, ça c'est le site vraiment de la coopérative immobilière. Et après, il y a aussi le site de Passerelle, comme toujours, passerelle.fr, passerelleasso.fr, pardon, où là, on met tout ça bien à jour pour que les gens puissent se tenir au courant. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à venir sur le festival, puisqu'on va faire un point sur la maison Lucette pendant le festival, et il aura lieu le samedi matin à 10h. On va commencer par ça. Et du coup, on peut rester à Dieulefi pour profiter ensuite de tout le programme.
Et voilà, donc nous arrivons justement où les murs ne servent à rien, ce titre emblématique,
oui.
Toujours d'actualité, encore
oh là
plus.
Là. Oui, très tout à fait d'actualité, trop d'actualité malheureusement. Les murs ne font que se répandre, c'est une épidémie de murs, à la fois physique, puisque cela augmente largement sur la planète, mais malheureusement, surtout dans les têtes, oui. Donc nous, on garde ce titre, on tient la ligne.
J'ai vu une petite vidéo sur le mur qui sépare les États-Unis et le Mexique, où je voyais une dame en train de peindre en noir les éléments
du mur. La nouvelle lubie de M. Trump.
Voilà, et ça permet de chauffer beaucoup plus et donc de ne pas pouvoir grimper ce mur. Alors, ça commencera vendredi 19 septembre, à partir de 20h, avec cette ouverture, avec toute l'organisation et puis peut-être des représentants de l'autorité.
Alors, l'ouverture du festival, en général, c'est évidemment un accueil pour tout le monde, mais aussi le moment du discours un peu politique qui porte un peu la ligne et l'identité du festival, oui.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ou un éditorial pour chaque festival ?
Alors en fait, je suis en charge de la programmation et on fonctionne pas sur une thématique annuelle. Je fonctionne plutôt en fonction de tout ce que je trouve, tout ce que je découvre pendant l'année. Et après, il y a des thématiques du coup qui se créent, notamment en mettant en lien des films. Là, par exemple, j'ai apprécié de mettre le court-métrage Home en amont du film qui va s'appeler Dom. Dom, c'est maison en russe. Et du coup, c'était pour moi un peu un jeu de mettre en lien ces deux films. Le film Dom, c'est un film qui parle des exilés russes, des personnes qui, au moment du début de la guerre, ont quitté la Russie, notamment parce qu'ils étaient journalistes ou blogueurs et qu'ils avaient peur pour leur vie, et qui sont partis se réfugier dans une maison pour les journalistes en Géorgie, et sachant qu'ils sont pour la plupart des gens très jeunes et qui quittent la Russie sans leur famille, et dont ils savent très bien qu'a priori ça sera une fuite pour toujours. C'est un très très beau film sur qu'est-ce que ça veut dire dans nos sociétés contemporaines, comme ça, du jour au lendemain, devoir quitter sa maison, trouver un lieu de refuge, mais qui est en même temps reste quand même potentiellement dangereux, puisqu'on sait évidemment la force des services secrets russes, et aussi comment continuer à écrire et à poster des choses sur son blog alors qu'on est en exil, pour parler de la situation dans le pays. Et je l'ai mis du coup en regard d'un petit court-métrage qui s'appelle Home, qui est très très beau, c'est un petit film d'animation qui parle d'un immeuble en Angleterre qui a vécu l'exil de plein de familles différentes au fil du temps. Et ce petit film raconte ces exils successifs dans le même immeuble, sans qu'on voit vraiment de personnages, seulement en voyant les objets bouger et habiter une maison. C'est un très très joli petit film.
Voilà, ça sera le dimanche matin.
Oui, tout à fait.
Et nous revenons donc ce vendredi 19 septembre avec des lectures d'extraits de Penser avec la frontière de Sophie Gigot. Alors, peut-on parler un peu de cette auteure ?
Oui, tout à fait. Alors, Sophie Gigot, elle est philosophe. Donc, du coup, c'est un point de vue, c'est un petit livre, un très beau petit livre. En fait, cet éditeur a cet objectif de faire croiser la photographie avec les sciences sociales. Et du coup, le texte est d'une philosophe. Et il y a des très belles photos en noir et blanc qui parlent de cette frontière. En fait, c'est un texte sur la frontière entre la Grèce et la Turquie, où il y a un fleuve qui fait la frontière, c'est ce fameux fleuve Evros. Et donc, penser avec la frontière, c'est vraiment, elle fait une sorte d'analyse de ce lieu, des violences qui s'y passent, évidemment, et des stratégies aussi que les personnes mettent en place pour essayer de traverser, mais avec une pensée sur la violence de notre Europe qui essaye de se barricader face à ces personnes. Et du coup, les lectures seront un peu, entre guillemets, une introduction pour le film d'après, qui est Moria 6, Les Six de Moria en français, qui raconte de façon assez intime une histoire qui est, moi je trouve, assez peu connue ici, mais quand le camp de Moria sur l'île de Lesbos a brûlé, puisque comme vous le savez, ce camp a entièrement disparu dans un très très grand incendie dans lequel il n'y a eu aucune victime. Miraculeusement. Et en fait, il y a eu une dénonciation. Il y a un monsieur qui a dénoncé 6 jeunes qui auraient été ceux qui auraient allumé le feu. Et son témoignage a été pris comme juste par les autorités. Ces 6 personnes ont été arrêtées. Toute l'enquête d'après prouve que c'était tout à fait... En tout cas, très très vite fait comme enquête, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qui est raconté dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est le point de vue, parce que la réalisatrice, en fait, a créé une relation épistolaire avec Hassan, un de ces jeunes, qui est un jeune afghan, dans sa prison. Ils ont commencé à s'écrire. Et le film est fait de ces échanges, aussi de sa rencontre avec Hassan, puisqu'à un moment, il a eu une liberté conditionnelle quand on a finalement pu, quand les autorités ont finalement accepté qu'il était mineur et que donc il ne devait pas être enfermé normalement. Enfin voilà, tout ça dure des années, mais c'est vraiment une vision de notre Europe et de la façon qu'elle a de construire des camps. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que suite à l'incendie, il y a eu ce nouveau Moria, vous savez, qui a été construit, soi-disant humanité et fermeté. Voilà, c'est un peu le truc, un camp avec une liberté des personnes qui est limitée. Et il y a tout un tas de plans, puisqu'ils ont eu la chance de pouvoir tourner à l'intérieur de ce camp, notamment dans les salles de contrôle, qui sont absolument hallucinantes, puisqu'on se croit vraiment dans une prison. Les gens ont des dizaines d'écrans devant eux, où ils surveillent chaque point. Voilà, c'est un film que j'ai souhaité mettre en soirée d'ouverture, puisque c'est vraiment notre thématique, là. La politique migratoire européenne, là, on la voit bien.
Cette intervention de lecture en début de soirée, faite par vous-même, Chloé ?
Alors oui, avec Pauline, le maire des Marais, que vous connaissez bien, je crois. C'est nous qui allons porter ce texte toutes les deux. Et les extraits de Sophie Gigot seront croisés avec des poèmes en lien avec l'exil. On aime bien, d'ailleurs, il y a Nadine Desper qui a un cabinet de poésie sur le festival. C'est la deuxième année qu'elle va porter ça. Il y a un petit espace en bas de la salle du festival, une toute petite, un lieu qu'on appelle la cellule, un tout petit espace dans lequel Nadine lit à une ou deux personnes seulement des poèmes en lien avec l'hospitalité, l'exil. C'est des petits moments qui sont privilégiés et puis qui nous permettent d'amener de la beauté dans tous ces sujets qui sont quand même bien compliqués et où il y a pas mal de souffrance.
Et d'ailleurs, on vous entendra le lendemain à 11h, hein, samedi 20.
Ouais, avec cette lecture autour de Tapachula.
À la suite de cette maison accueillante de Dieu le Fils, donc oui. Ça sera aussi cette présentation oui. Par l'équipe de Passerelle.
Complètement. On va présenter, ça va vraiment être un point d'étape, mais là, c'est un gros point d'étape, puisque là, maintenant, l'idée, c'est que ça y est, c'est parti, on a acheté la maison. Donc, du coup, on va pouvoir présenter à tous les gens qui sont là, à la fois les gens qui sont peut-être déjà sociétaires, qui sont diolfitois, qui connaissent le projet, mais aussi tous les gens qui viennent sur le festival, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de loin, de Lyon, de Marseille, de Paris, pour les murs ne servent à rien, leur faire un point sur où on en est, et surtout leur montrer combien la rentrée sera chaude avec tous les travaux qu'on va commencer.
La maison Lucette, donc oui. Issue aussi de cette contribution par
les citoyens.
Des citoyens. Est-ce qu'il y a aussi un soutien des autorités
Alors en fait, du point de vue global sur le projet, on est quand même soutenu par de l'argent public dans le sens où on a obtenu un financement leader, qui est un financement européen et qui s'appuie toujours, le financement leader doit pour exister s'appuyer sur des contributions publiques. On a eu un soutien de la communauté de communes de Diolfi-Bourdeaux et de la mairie de Diolfi. Ça, c'est des soutiens qui ne sont pas sur l'achat, hein, c'est pas sur l'acquisition, mais c'est bien sur financer le projet social. Et notamment, si on a pu obtenir ce financement leader, c'est dans le sens où on a vraiment une volonté de professionnalisation. Je suis salariée, la personne qu'on va recruter sera salariée, les bénévoles avec qui on travaille, on les forme. C'est vraiment sur ça que Leader a voulu abonder, c'est-à-dire qu'on fait monter les gens en compétences dans leur position de bénévole social spécialisé de l'accueil.
À 11h, on revient donc sur oui. C'est Tapachula, Ville-Monde.
Tapachula, Ville-Monde, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une ville que je vous... Enfin, je peux que vous recommander de venir écouter cette lecture qu'on va faire. Alors là, on part vraiment sur le journalisme, c'est plus la littérature. Cette année, il y a un gros focus, en fait, sur le travail d'un journaliste qui s'appelle Amaury Auchard, qui a roulé sa bosse, comme on dit, sur le continent africain, et qui, là, a réalisé toute une enquête sur une ville qui s'appelle Tapachula, qui est une ville au Chiapas, donc au Mexique, à la frontière avec le Nicaragua, sur la route en direction des États-Unis. En fait, dans cette ville, il y a la moitié des pays du monde qui sont représentés par les personnes exilées qui s'y trouvent. Ça vous montre un peu le niveau où on est de personnes qui se déplacent. Et voilà, ils ont réalisé, Amaury Auchard et Michele Catani, qui sera aussi là, qui est photoreporter pour l'agence France Presse, ils ont réalisé cette enquête pour le journal Le Média Les Jours, qui est un excellent média. Et donc nous, on a, dans ces trois papiers qui font une série Tapachula, on a créé cette lecture-projection, puisque du coup, on va lire des extraits des trois papiers parallèlement à la projection des photos de Michele sur cette ville tout à fait étonnante où on rencontre toutes sortes de personnes venues de plein d'endroits et qui nous racontent un petit peu leur histoire de migration.
Il y aura à la suite le repas, 12h30, préparé par vous-même.
Alors non, nous on travaille avec plein de gens pour le festival. Et si je ne me trompe pas, ouais, samedi midi, c'est un couple de personnes d'origine irakienne avec qui on travaille depuis des années, qui vivent dans la Drôme, qui ont monté cette activité de traiteur. Et du coup, on aime bien les faire bosser sur le festival.
Voilà, ça sera un préambule avec le film d'animation qui suivra,
ouais.
Le parfum d'Irak, de ouais. Farah Alani et Leonard Cohen.
Oui, c'est un homonyme, hein. C'est pas le Leonard Cohen auquel on pense, justement.
Oui.
C'est Leonard Cohen qui a fait la partie animation qui est absolument splendide dans ce film. En fait, ce film, c'est une adaptation du roman de Farah Alani, qui est un roman autobiographique qui s'appelle « Je me souviens de Fallujah ». Alors, je ne peux que vous recommander. C'est un magnifique livre sur la double identité, sur l'exil, sur qu'est-ce que c'est être un enfant qui a quitté son pays avec ses parents face à l'histoire hyper compliquée de son pays, parce qu'on peut bien dire que l'Irak, s'il y a un endroit bien compliqué dans le monde, c'est le cas. Et ce film raconte tout ce parcours et comment ce petit Farah va finir par retourner en Irak, rencontrer sa famille, comprendre la complexité de tout ça, comprendre aussi des choses de ses parents en retournant dans son pays, évidemment. Et ça, dans un film d'animation qui est vraiment accessible, mais en même temps très profond.
Suivra une pause.
Oui,
alors,
il en faut.
Pauses,
dans
qu'il
ces
se
pauses,
passe
on se propulse au bar et on achète une part sur la table de gâteaux, puisque sur le festival, on a cette tradition on a plein de bénévoles qui nous préparent des gâteaux. Ça co-finance le festival et ça met surtout pas mal de bonne humeur.
Autour de ces ateliers, de ces présentations, il y a aussi un point presse, un
alors,
kiosque.
Il y a l'info-kiosque de Voix Libre Drôme, puisque nos amis de Voix Libre Drôme sont toujours présents sur le festival. Et il y a la librairie qu'on co-organise avec la librairie Soé Gambad, donc cette magnifique librairie que nous avons la chance d'avoir à Diolfi. Et nous, avec Catherine Goffaut, qui est une des bénévoles de Passerelle, on travaille toute l'année à tenir une veille sur toutes les sorties sur les questions migratoires. Donc c'est à la fois les essais, les romans, les BD, les romans graphiques, tout ce qui se fait aussi en photo, en poésie. Et on a la chance du coup de présenter, là on vient d'envoyer la liste à la librairie, il y aura plus de 200 ouvrages sur les questions migratoires en vente sur le festival. Et ça, c'est aussi... Bon, ça fait partie des combats, que les gens puissent avoir accès à une information de très bonne qualité sur ces questions.
Je reviens un peu sur cette notion de recherche,
oui.
Entre la littérature,
oui.
Ces courts-métrages, ces auteurs. Comment procédez-vous à cette recherche? Il existe des réseaux qui puissent justement vous
Alors,
vous,
je vais,
vous emmener,
je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains. Les réseaux sociaux sont une...
Je ne parle pas de réseaux sociaux. Hein.
Oui, mais justement, oui. Les réseaux sociaux sont une mine pour moi dans la veille que je tiens chaque année. C'est-à-dire que évidemment, vous vous doutez bien que les réseaux sociaux de Passerelle et les miens sont évidemment par l'algorithme, se sont complètement dirigés vers ces questions-là. Et du coup, il y a plein de films, courts-métrages, livres dont j'entends parler par ce biais-là, mais c'est aussi évidemment par la presse. Je suis en contact évidemment avec des personnes aussi qui me disent « Chloé, on m'a parlé de ce film, il faut que tu regardes ». Donc après, c'est vraiment au fil de l'année, être dans cette... c'est une curiosité, c'est une acuité, et puis j'adore ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est évidemment un goût. Et du coup, ben, on voit beaucoup de films, on lit beaucoup de choses et puis à la fin on essaye de créer cette programmation qui a une forme de cohérence, toujours dans l'idée de moi mon souhait c'est voilà, qu'est-ce que ça produit sur les gens qui vont venir, avec quoi ils vont repartir aussi avec de l'énergie j'espère pour bosser, pour lutter dans leurs assos mais aussi à titre personnel.
À la suite, vous avez dit OQTF, obligation de quitter oui. Le territoire français. Et ça, c'est un thème incontournable.
Incontournable hein, et de plus en plus,
de ce
malheureusement.
Festival.
Oui.
Au vu de l'actualité, quel regard portez-vous, vous-même, Chloé, et puis peut-être l'équipe autour de vous?
Ah, c'est un peu difficile. Je pense que l'époque qu'on vit, oui, elle est compliquée. Nous, on est, je pense que... J'allais dire, ce qui nous sauve, c'est ce qu'on fait. Et en même temps, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce qu'on fait nous rend actifs. Enfin, voilà, il y a une sorte de machine en route. On va ouvrir cette maison. On va continuer à accompagner les personnes qu'on accompagne. On reste combatif. Après, quand on, c'est sûr, l'actualité, elle est épuisante, elle est décourageante. Les bêtises aussi qui sont dites. Donc justement, vous avez dit au QTF, ça va être une conférence juridique qui va être portée par Julia Brillant, juriste du droit d'asile, et Laurent Delbonne. Boss, qui est le responsable plaidoyer à Forum Réfugiés. Donc, c'est la personne qui coordonne le rapport de Forum Réfugiés qui sort chaque année sur l'asile en France et en Europe. C'est une personne particulièrement passionnante. Et donc là, ils sont en train de construire une conf. Je fais tous les retours réguliers avec eux, donc je vois très bien ce qu'ils sont en train de monter. Ça va être passionnant. C'est vraiment l'idée de déconstruire tout plein de préjugés qu'on a sur... déjà, OQTF, maintenant, c'est devenu comme des personnes, non ? L'OQTF, c'est une situation, voilà, c'est quelque chose qu'on vous donne d'un point de vue administratif. Ça ne définit pas les gens. Il faut essayer de sortir de ça. Et on va vraiment avoir trois quarts d'heure très didactique sur comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une OQTF, comment est-ce qu'on peut en sortir, le pourquoi, le comment, et surtout, qu'est-ce que ça crée aussi pour les personnes dans leur quotidien.
Mis à part les peuples... subsaharien, et parfois peut-être d'Europe de l'Est, est-ce qu'il y a, même de l'Asie, est-ce qu'il y a toujours cette espèce d'épée Damoclès pour toute population vivant en France avec cette OQTF ?
Ah ben en fait, l'OQTF, elle, alors là, pour le coup, elle ne regarde pas l'origine des personnes. Hein, c'est vraiment, en fait, toute personne qui est... Ce qui se passe, c'est que toute personne... Alors déjà, toute personne qui va avoir un refus à l'asile, donc refus à l'OFPRA, puis à la Cour nationale du droit d'asile. Maintenant, de plus en plus de refus d'asile sont assortis d'une OQTF, donc voilà, à la fin de la procédure, non seulement c'est non, mais en plus c'est va-t'en. Et puis, ben, les personnes qui sont rentrées, effectivement, sans visa, sans autorisation à rentrer, donc ce que les autorités appellent de façon irrégulière, ben, elles, chaque jour, elles risquent de choper une OQTF, dans le sens n'importe quel contrôle routier, dans la rue, voilà, les choses tournent mal, on est en contact avec, avec une personne de la police, on peut du coup en arriver à avoir une OQTF. Après, ça ne veut pas du tout dire à la fin être renvoyé, c'est aussi ça ce qu'on va décrire. Il est absolument impossible de renvoyer toutes les personnes à qui notre État met des OQTF, ça c'est aussi un truc hyper contre-productif qu'on va un peu pointer pendant la conférence.
À 17h30, il y aura un documentaire radiophonique, Dernier recours de Noé Pignède.
Oui, tout à fait. Donc justement, ça fait bien lien. C'est pour ça que c'est l'un après l'autre. Les personnes qui obtiennent une OQTF et pour qui les choses s'enveniment véritablement, elles peuvent être envoyées en CRA, ce fameux très moche mot, Centre de Rétention Administrative. Et en fait, Noé Pignède a fait une très belle série documentaire en podcast. C'est 3 épisodes et on se lance à passer les 3 épisodes. C'est tellement bien ce qu'il a fait. Je me suis dit, on se lance, ça durera 50 minutes, mais ça vaut vraiment le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le CRA du Ménil-Amelot, qui est le CRA de la région parisienne, qui est un des pires CRA de France. La CIMADE, comme vous le savez, dans les CRA, il y a plusieurs organisations qui ont le droit d'être là pour essayer de faire respecter les droits des personnes. Et la CIMADE en fait partie. Et la CIMADE a décidé l'année dernière de se retirer de ce CRA, tant les conditions étaient insupportables et inhumaines pour les personnes, selon eux. Donc, c'était une décision très dure, parce que ça veut dire on sort, quoi. C'est une grosse décision politique pour une association de ce genre. Et Noé Pignède, en fait, a réalisé ce documentaire par l'intermédiaire des militantes de la CIMADE, qui, les derniers jours de leur présence dans ce CRA, ont fait rentrer un micro. Et donc, on vit les derniers temps de présence de la CIMADE dans ce centre de rétention. C'est édifiant.
Ces rencontres, ces rendez-vous sont tous avec un temps imparti. Il y a une espèce de contrainte aussi. Est-ce que c'est un peu...
Oui, alors vous avez dû voir la petite mention qu'on a ajoutée dans le programme. On a ajouté une petite mention en demandant aux personnes de respecter les horaires. Et nous, on va aussi essayer, bien sûr, de les respecter. Parce que la halle, c'est une très grande salle. On a la chance vraiment d'avoir une salle magnifique à Diolfi. Mais c'est une salle où il y a du parquet. C'est une salle où on installe énormément de chaises. Et en fait, pour des contenus comme ça, dont certains films sont vraiment, au-delà d'être des films politiques, au-delà d'être des documentaires d'information, c'est aussi des très beaux films. Pareil pour les lectures, on aime être dans une atmosphère où on écoute, où il y a une belle écoute. Donc du coup, cette année, on a vraiment décidé que quelques minutes après le début de chaque contenu, les portes seront fermées. Donc, s'il vous plaît, venez à l'heure pour qu'on puisse tous profiter dans des bonnes conditions d'écoute.
Une pause à suivre, ce sera le moment de remettre les chaises en place.
Voilà.
18h50, film documentaire Éclaireuse de Lydie Wilsfoth-Glaudel.
Oui.
de Belgique.
Un film, ouais, tout à fait. Un film qui nous vient de Belgique. Beaucoup de films documentaires belges qui sont très beaux. Ça, c'est un des films que j'ai sélectionné en premier là, pendant cette année parce qu'il y a, déjà un sujet qui est complètement original et un point de vue qui l'est aussi. En fait, c'est l'histoire de femmes anciennes instites qui ont décidé de créer une école spécialisée pour les enfants de personnes exilées, les enfants eux-mêmes de conditions migrantes, qui n'ont ni sur la route, ni à la maison, je ne devrais pas dire maison, mais ni dans le pays d'origine, n'ont été à l'école. Donc ça veut dire que c'est des enfants pour qui, je ne vous parle même pas, s'asseoir sur une chaise devant une table pendant des jours, c'est juste quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Et donc elle crée une toute petite unité, c'est vraiment une toute petite école. D'ailleurs, dans les images, vous me diriez, mais ce n'est pas une école, c'est un atelier. Ça ressemble vraiment à un atelier, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la pratique artistique et manuelle. Et on voit ces deux femmes dans leur quotidien avec ces enfants. Ce sont beaucoup des enfants d'hommes, ce sont les enfants roms de Syrie, mais pas que. Et c'est vraiment un film sur une énorme aventure pédagogique.
Je reviens un peu sur ces durées donc indiquées. La question que je me pose, c'est à quel moment peut-on vider son sac aussi?
Mais oui, justement, les temps. Au fil des ans, on a augmenté justement les temps de pause qui maintenant durent minimum une demi-heure pour que les gens puissent sur les tables à l'extérieur discuter, vider son sac peut-être, dire s'ils sont pas d'accord, dire s'ils sont d'accord. Et puis les temps de repas sont très longs maintenant aussi. Ils durent soit une heure et demie, soit deux heures. Donc ça permet aussi que, puisque évidemment les murs d'un certain sont devenus un lieu où beaucoup des personnes engagées dans l'accueil se retrouvent de la France entière. Et du coup, ça permet de faire plein de réseaux dans ces moments-là et c'est super précieux.
Un repas, donc, pour suivre avec une soirée festive.
Oui, cette année, on a un concert. Le nom n'est pas sur le programme que vous avez parce qu'on n'avait pas encore le nom. Mais ça y est, on sait, c'est Mama Cholita qui va jouer. Un groupe qui joue un répertoire ancien venu d'Amérique latine. Et on se réjouit d'avoir ce moment un peu festif et dansant devant la halle. Puisque, évidemment, il fera beau, n'est-ce pas?
Le lendemain, il y aura à 10h une lecture d'extrait, toujours par vous-même, j'imagine, de l'arabe pour tous.
Alors non, cette fois, c'est Julien Dabrigeon qui est censé nous lire les extraits de l'arabe pour tous. Alors ça, c'est un livre, l'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France. Un très très beau livre de Nabil Wakim. Nabil Wakim, il est journaliste au Monde, mais là, c'est vraiment un livre autobiographique puisqu'il est libanais, il est d'origine libanaise. Et il a un problème. Il n'a jamais réussi véritablement à apprendre l'arabe. Même une fois adulte, à vouloir à s'être payé des formations, à être retourné entre guillemets à l'école pour ça. Et il explique cette expérience et surtout, il va chercher le pourquoi. Le pourquoi qui est évidemment en partie du côté de sa famille, mais grandement du côté de la société. Pourquoi est-ce que cet arabe, il est toujours caché, quand tu rentres dans le bus avec ta maman, pourquoi tu lui demandes de plus parler arabe? Et il va rencontrer dans le livre plusieurs personnes qui ont aussi ce vécu, des femmes et des hommes publics français qui ont un rapport à la langue arabe compliqué. Il y a notamment Najat Vallaud-Belkacem qui témoigne de la lutte qu'elle a eue quand elle était ministre de l'Éducation, de vouloir essayer de ramener l'arabe en enseignement à l'école en France et comment elle a été reçue quand elle a essayé de faire ça. C'est très instructif.
Ce n'est que partie remise, peut-on espérer.
Oui.
La suite, on l'a déjà
présentée
en début d'émission.
Oui, tout à fait.
Il y aura ce repas ensuite. Et à 14h, il y aura la dernière rive de Jean-François Ravagnan, toujours aussi de Belgique. Belgique est un grand producteur de documentaires.
Alors, en nombre de documentaires, je ne saurais pas du tout vous dire. Mais par contre, je sais que dans le festival, on a souvent programmé des films belges. Et que notamment du point de vue du documentaire, je pense qu'ils ont vraiment un œil. Qu'ils ont des bonnes écoles de cinéma, eux aussi. Et ça, ça a été un peu le coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la programmation. C'est un film très très touchant, très beau, avec un point de vue très original. En 2017, il y a un jeune homme gambien qui s'est noyé dans le canal de Venise. On a su ça parce que cette scène a été filmée en fait par un monsieur italien et la vidéo a fait le buzz sur les réseaux puisqu'elle est particulièrement scandaleuse, puisque en fait des gens l'insultent et personne ne lui envoie une bouée suffisamment tôt pour que cet homme puisse survivre. Donc ce monsieur est décédé et c'était il y a des années maintenant, et le réalisateur Jean-François Ravagnan est parti en Gambie et a retrouvé le père, la mère et le frère de ce jeune. Et c'est par le prisme de ces personnes-là qu'on va découvrir l'histoire de migration de Pathé. Et aussi, on rencontre dans le film, on entend dans le film le colocataire qu'il avait quand il vivait en Italie, parce que c'était un jeune qui avait réussi à obtenir un permis de séjour, qui travaillait, mais pour qui des soucis de santé mentale ont fini par subvenir.
À la suite de ce film, il aura une conversation avec le cinéaste.
Tout à fait. Jean-François Ravagnan nous fait le grand plaisir de venir. Donc on est vraiment ravis. Et il sera là pendant tout le week-end puisqu'il a envie de profiter de la prog avec nous. Donc vous pourrez le rencontrer.
Documentaire radiophonique, ça sera aussi Comme une guerre qui ne finissait jamais, de Raphaël Bottiveau. Alors ça dure 25 minutes.
Ça dure 25 minutes et c'est la fin du festival. On essaye toujours à la fin de trouver quelque chose qui met un peu du baume au cœur. Ce documentaire, il a été réalisé par une personne assez étonnante, Raphaël Bottiveau. Il est à la fois chercheur, à la fois artiste. C'est un documentaire sur la frontière franco-italienne, en grande partie à l'époque où c'était les Italiens qui migraient pour venir travailler en France. Et c'est vraiment un documentaire sonore. Il y a beaucoup de chants, de chansons et d'extraits de textes lus sur cette période, mais qui, tout ça, est mis en regard avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, avec ce qui se passe aujourd'hui à Briançon, à la frontière. Et c'est un documentaire très poétique.
Il y aura aussi le moment de découvrir des expositions, 4. Ouais. Indiqué sur le programme, notre famille afghane, sillage au pluriel, d'où viennent nos grands-mères et follow. Alors, quels sont les points communs de toutes ces...
Alors, toutes ces expositions parlent évidemment de questions migratoires. Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée, bon, là, c'est vraiment la grosse exposition qui sera visible à l'usine, au Poët-Laval, et qui parle de l'exil d'un jeune homme afghan en France et de sa vie ici, mais sur un très long cours. Olivier Jobard, en fait, il a suivi la vie de ce jeune Gorban pendant des années. Donc, on est vraiment sur un travail photographique au très long cours qui permet de comprendre plein d'enjeux. Sillage, c'est une exposition, c'est la première année qu'on a une expo qui nous est prêtée par le Musée de l'Histoire de l'Immigration. Ça, c'est une très grande chance. Ils ont des expos, en fait, qui délocalisent et qui sont prêtées. Donc, et c'est une question sur la présence des Roms, des Manouches, des Saintés, des Gitans, des Yéniches, des voyageurs en France. Donc, un sujet qu'on a très peu traité sur le festival.
Je crois que c'est une exposition qui a été visible au cinéma Le Pestel il y a 2 ou 3 ans, il me semble bien.
Alors c'est possible, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est des expos qui mettent à disposition. Et là, voilà, on a jamais vraiment travaillé cette question sur le festival. Donc là, c'était vraiment l'occasion. D'où viennent nos grands-mères ? Ça, c'est notre partenariat avec le collectif Mimesis, qui est un collectif qui existe sur Dieulfi et Montélimar, un collectif qui fait de la recherche-action et qui interroge depuis une année les habitants du territoire sur leur transmission de récits de femme à femme en lien avec leur migration. Et puis Follow, ce sera l'expo du coup de Michele Catani qui sera aussi sur scène, dont on a parlé tout à l'heure, ce photoreporter sur la migration des hommes depuis l'Afrique de l'Ouest vu du point de vue, enfin en lien avec la question des réseaux sociaux et comment ces réseaux sociaux sont aussi un des prismes de la migration venue d'Afrique.
Il y a l'actualité hein, qui nous annonce aussi de nombreuses victimes hein, au niveau de la presse, des journalistes. Oui. C'est aussi un sujet qui sera plus ou moins... évoqué.
Ah ben en tout cas on aura deux journalistes et photoreporters sur scène dont d'ailleurs Amaury il pourra peut-être nous parler de la difficulté qu'il a eue pour travailler ces derniers temps dans le dernier pays du continent africain sur lequel il était. Le travail des journalistes il est effectivement de plus en plus compliqué pour plein de raisons, en raison des états violents mais aussi en raison de l'intelligence artificielle. Il y a plein de nouveaux enjeux qui rendent le métier de journaliste très compliqué, oui.
Les enfants ne sont pas oubliés,
ah, hein, non.
Puisqu'il est consacré 2 journées pour eux avec des propositions très diverses, des lectures, oui. Des activités, de la radio.
Oui. C'est un programme qu'on monte le samedi et le dimanche avec Microfolie, puisqu'on a la chance d'avoir une Microfolie à Montélimar, qui est la Microfolie de Diolfi, pardon, qui est rattachée à Montélimar, avec l'association Stimuli. Et donc, on a construit ensemble toute cette programmation. Il y aura des lectures de livres jeunesse autour de l'exil et de l'hospitalité. Il y aura des courts-métrages, des films, effectivement, mais aussi des activités qui seront menées par Stimuli. Dis-moi combien t'en veux, le déracinement versus l'accueil, par exemple. Ou bien le jour où j'ai dû quitter mon pays en guerre, une écoute radiophonique, puisqu'on trouvait chouette aussi que les tout-petits... Il y a des petits hein, qui écoutent la radio. Hein, de nos jours, il y a toutes ces petites radios là où on peut faire défiler des podcasts. Mais c'est vrai que pour sortir des écrans, ça peut être vraiment un bon médium.
Un petit cabinet de poésie.
De poésie, oui, ouais, c'est avec... le cabinet de Nadine. Vous pourrez, au fil du festival, à certains horaires, aller écouter la voix de Nadine qui vous lira des poèmes.
Autour de ces événements, il y a la ville elle-même.
Ah oui, ça vaut vraiment le coup de venir à Diolfi aussi pour le reste. on a une magnifique librairie, on a une rue centrale, la rue du Bourg, qui est vraiment devenue très très vivante ces dernières années, avec plein de magasins, notamment des magasins co-gérés par des céramistes. Donc il y a plein de choses à faire à Diolfi au-delà du festival. Ouais.
Et puis il y a Radio Là.
Et il y a Radio Là, tout à fait.
La radio web.
Oui. Radio partenaire. Oui,
et
oui.
Justement, pendant cette durée, est-ce qu'il y aura une présence ou quelques retransmissions
de... Alors cette année, on n'a pas de retransmission comme on avait fait l'année dernière ou il y a deux ans avec Morgan Famille. Mais Pauline sera une des lectrices avec sa voix radiophonique. Et puis Radio Là, c'est toujours un de nos partenaires. Je fais toujours une interview chez eux et ils soutiennent le festival, oui.
Il y aura peut-être quelques prises de son qu'on pourra écouter pour la suite.
Alors, il y a de toute façon des prises de son, tout à fait, qui sont faites par Stéphane Trouille, que vous connaissez bien dans le Diwa. Et du coup, les lectures, les conférences, les interventions, les conversations sont captées et sont ensuite mises sur le site. On peut retrouver toutes celles de l'année dernière sur le site de Passerelle si on a envie de voir à quoi ça ressemble. Les murs ne servent à rien. Ouais.
Une petite parenthèse, justement, il y a la maison d'Elisa et la guinguette d'Elisa,
oui,
qui organisent une fête
le 29 août. Ils font une fête, tout à fait. C'est vendredi, oui.
Voilà. Donc, pour les personnes intéressées...
Complètement. Un très joli lieu aussi.
Très bien. Et je crois qu'on a tout dit. On peut retrouver toutes ces informations sur le site de passerelleasso.fr.
Exactement.
Je mettrai le lien sur
Merci.
La page de l'émission. Chloé, dernière question. Quel temps avez-vous pour vous-même avec tout ce qu'il y a?
Non, j'ai du temps pour moi-même que j'essaye de protéger, effectivement. Et je me suis bien baignée dans les rivières cet été.
Et peut-être, pour finir, je mettrai un morceau donc, de Mama
Cholita. Super.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Au revoir.
Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan las tucumanas con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vi. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Si bien el gaucho le hace un floreo y el zapateo comienza ahí. Si bien el gaucho le hace un floreo y el zapateo termina ahí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ella quiera, que la primera ya terminó. Y así se olvida que hay que sufrir. No empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, unas cuantas mozas bizarras pa' que la farra pueda seguir, sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para las del norte sí, para las de Simoca, mis ansias locas de estar ahí, para brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí. Para las de Simoca, mis ansias locas de estar ahí, para brindarles mi alma en esta zamba que canto.